Partager le savoir.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Dans l'émission Partager le savoir consacrée aux expériences, aux pratiques et aux formations concernant la langue française dans les différentes parties du monde, Canal Académie reçoit aujourd'hui Dadang Sunandar pour nous parler de la langue française en Indonésie. Comment créer une dynamique et une synergie francophone au sein des pays de la région Asie-Pacifique? Voilà le thème de notre entretien en nous appuyant sur l'exemple de l'Indonésie avec la présence dans notre studio de Dadang Sunandar, de passage à Paris. Dadang Sunandar, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes présidente de l'Association des professeurs de français d'Indonésie.
Oui.
La PFI. Votre association fait également partie de la Fédération internationale des professeurs de français, la FIPF, qui est d'ailleurs partenaire de Canal Académie et avec laquelle nous avons déjà réalisé de nombreuses émissions. Et dans le cadre de cette fédération, vous êtes vice-présidente de la commission Asie-Pacifique de la FIPF. Il y a effectivement 8 commissions qui couvrent l'ensemble des continents. Alors, juste avant de commencer l'entretien, je voudrais juste présenter un petit peu la FIPF, à moins que vous vouliez le faire, mais rappeler que la fédération comprend 180 associations au total et fédère 70 000 à peu près professeurs de français. Alors, son objectif, c'est évidemment d'apporter un soutien constant à ses professeurs. Et puis, en 2004, la FIPF a reçu le prix Louis D. à Paris, à l'Institut de France, et grâce à ce prix, elle a pu acheter un espace, un lieu d'accueil en plein Paris, au cœur de Paris, rue Jean de Beauvais, où elle a aménagé le café Le Français dans le Monde, qui est maintenant un lieu où peuvent se retrouver justement les professeurs de français cette fédération internationale lorsqu'ils sont de passage à Paris. Dadang Sunandar, quelle est la situation, pour commencer notre entretien, quelle est la situation des langues dans l'archipel indonésien?
En Indonésie, nous parlons l'indonésien et nous sommes, au niveau démographique, nous sommes 220 millions d'habitants et je crois que plus de 200 millions d'habitants parlent indonésien. Si on compte bien, il y a plus de 500 langues en Indonésie. Mais l'indonésien est une langue nationale pour tout le monde.
Donc une réelle diversité linguistique sur le plus grand archipel du monde, effectivement, qui est une grande puissance démographique en Asie, puisque c'est le troisième pays après la Chine et l'Inde, démographiquement.
Démographiquement, c'est ça. C'est après les Chinois et les Indiens. Et les Américains, peut-être.
Alors, quel est l'état du français en Indonésie où, justement, où la langue anglaise, il y a un contexte particulier? C'est un pays habituellement plutôt anglophone que francophone.
Voilà, c'est ça. L'Indonésie, c'est vrai, c'est un pays qui est plutôt anglophone que francophone. Et on le sait bien que l'Indonésie est très loin des aires géographiques de France, de la métropole. Mais malgré tout ça, le français est une des langues étrangères la plus étudiée par des jeunes indonésiens. À côté du français, nous connaissons le japonais, l'allemand, l'arabe et récemment le mandarin. C'est-à-dire que nous avons 5 langues étrangères officiellement reconnues par le ministère de l'Éducation nationale.
Ce sont des langues qui sont attractives pour les Indonésiens, l'arabe. Peut-être aussi parce que c'est un pays musulman, majoritairement musulman.
Oui, c'est 90% des Indonésiens sont musulmans.
Voilà. Mais par exemple, une autre langue européenne, vous parliez de l'allemand et de l'anglais. Bon, l'anglais,
oui,
c'est la langue de communication.
Oui, c'est un peu partout dans le monde.
Voilà. Mais l'allemand, c'est surprenant quand même.
Oui, peut-être. Au point de vue historique, en effet, nous comprenons pourquoi le français existe en Indonésie ou en Asie-Pacifique. C'est-à-dire que depuis plus de, je sais pas, à peu près du 19e siècle, la langue existait. Mais pour l'allemand, c'est comme dit-on, il est là grâce aux entreprises existantes, c'est-à-dire que des industries allemandes existantes dans le territoire.
Voilà. Ce sont des raisons économiques.
Voilà, des raisons économiques, technologiques et pour le travail à la fois.
À l'apprentissage de ces langues.
Oui.
pour tous ces échanges commerciaux et pour ces entreprises donc implantées en Indonésie. Combien de professeurs enseignent le français en Indonésie, Dadang Tsunandar?
Le nombre des professeurs,
à peu près,
à mon avis, ça arrive à plus de 1000 personnes, mais dans la liste de notre association, nous n'avons que 410 adhérents, c'est-à-dire qu'il y a encore des professeurs qui ne sont pas encore inscrits à l'association. C'est peut-être dans les années à venir, nous allons essayer de recruter encore beaucoup plus de professeurs pour nous joindre dans l'association.
Alors, 1000 professeurs, depuis à peu près une dizaine d'années, on a atteint ce chiffre.
Plus de 20 ans.
Et on a une idée aussi de l'estimation d'élèves et d'étudiants qui bénéficient de cet enseignement?
Oui, le total, parce qu'au niveau de l'éducation, nous avons deux systèmes. Premièrement, le français est enseigné au niveau secondaire et aux universités.
D'accord.
Le total, à mon avis, se situe entre de 50 000 à 90 000 francophones, à mon avis, le total.
Est-ce que ça représente beaucoup ou peu? Par rapport
plus ou moins,
à la population étudiante, c'est peut-être un chiffre encore faible.
Je crois que le chiffre peut être encore augmenté.
Oui.
Je vous dis un exemple, ou c'est pas un exemple. C'est-à-dire que je vous décris la situation. Nous avons 17 universités en Indonésie qui proposent le français. C'est-à-dire qu'il y a un département de français. Et 10 parmi elles sont des universités majeures.
D'accord.
C'est-à-dire que le nombre des universités en Indonésie où il y a un département de français, comme le temps, ils sont beaucoup plus nombreux que, par exemple, on rigole beaucoup en Indonésie, que le nombre des départements de javanais.
D'accord.
Ou le département de soudanais. Moi, je suis soudanais. C'est-à-dire qu'il y a 30 millions soudanais et il n'y a que deux universités qui proposent département de français. Où il y a 60 millions javanais, mais il y a seulement deux départements de javanais en Indonésie. C'est-à-dire que au point de vue du nombre, le département de français, c'est très bien.
D'accord.
Voilà.
Et grâce à cet éclairage, on a une vision plus juste de la situation. Et oui, c'est important d'avoir justement un acteur de cet enseignement avec nous aujourd'hui pour nous parler du français en Indonésie. Le français est proposé dans le système secondaire, vous nous disiez tout à l'heure, depuis 30 ans, ça fait quelques générations, c'est récent.
C'est depuis l'époque de mon père. C'est-à-dire que mon père, il a déjà étudié le français dans les années 50. C'est-à-dire qu'il a même encore utilisé le manuel Moge Bleu qui est sorti dans les années 50.
D'accord. C'est lui qui vous a donné le goût de la langue française?
C'est lui qui m'a beaucoup inspiré pourquoi j'étudie le français. Je vous raconte une petite histoire assez personnelle. C'est-à-dire qu'une des raisons pourquoi j'ai choisi un département de français, c'est parce que mon père, il chantait beaucoup la Marseillaise et il connaît par cœur la parole. Et voilà, et j'entendais souvent. Et depuis ce moment-là, moi, je crois que j'ai décidé à étudier le français.
Ah, puis c'est toute une histoire de France dans laquelle
peu,
vous êtes entré directement à travers ces fameuses paroles. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un jeune Indonésien au lycée à faire le choix du français?
Voilà.
Est-ce que ce sont ses parents ou lui, qu'est-ce qui peut le motiver?
Voilà. Qu'est-ce qui le motive? Au niveau de l'association, en 2003, nous avons distribué un sondage pour les étudiants, soit ceux qui travaillent dans les universités, soit ceux qui étudient le français dans les centres culturels ou les alliances françaises. Et d'après le résultat, c'est vrai que c'est assez marrant comme réponse. Il y a des réponses, par exemple, moi j'étudie le français ou j'apprends le français parce que la langue est romantique. Parce que le français est romantique, parce que j'aime les français, parce que j'ai des amis français, parce que j'aime des langues étrangères et puis également parce que j'ai besoin de français pour rechercher du travail.
D'accord.
Donc, et il y a quelques petites réponses intéressantes, en effet. Voilà.
Et la France a une image comme ça, romantique, la langue française?
Tout à fait.
En Asie ou juste en Indonésie?
Ce n'est pas seulement la langue,
oui,
mais la France.
Culture, la France. L'image
de la France, c'est très romantique, c'est très positif chez nous, surtout chez les jeunes Indonésiens.
Alors, j'espère qu'ils ne sont pas déçus quand ils viennent en France.
Oh non.
Pour ceux qui sont déjà allés français en Indonésie.
Oui. C'est-à-dire pour ceux qui sont déjà allés en France et voir directement Paris, la Tour Eiffel, etc. Ils veulent toujours revenir. Ils adorent la France, Paris particulièrement.
Alors, dans ce système secondaire où le français est donc proposé, est-ce qu'il fait l'objet d'une évaluation au niveau du diplôme de fin d'études scolaires?
Oui, bien sûr. Oui. Officiellement, nous avons ce qu'on appelle dans le système éducatif indonésien le programme de S1, S2, S3. S1, c'est à peu près comme le programme de l'ancien maîtrise ici, ou master. Et puis S2, c'est comme master 2 ici à peu près. Et puis programme doctorat. Chez nous...
Ça, c'est pour l'université.
Pour les universités.
D'accord.
Pour les universités, c'est-à-dire que dans 10 universités majeures, surtout, ce qu'on fait, c'est pour le programme de S1, programme maîtrise à langue indonésienne. Voilà. Et puis, pour le secondaire, ils apprennent le français s'ils arrivent au niveau de B1 au français, c'est-à-dire que B1 DELF, le cadre européen, c'est ça, c'est déjà bien pour les lycéens parce qu'ils sont vrais débutants en langue
quand
française.
Ils commencent. Oui.
Voilà. Tandis que pour les étudiants, les diplômés, ils arrivent au niveau B1, entre B1 et B2. Et récemment, depuis l'année dernière, nous avons créé, en collaboration avec, c'est-à-dire la collaboration entre notre université, c'est l'Université pédagogique d'Indonésie, c'est à peu près comme une école normale ici en France, avec l'ambassade de France, par l'intermédiaire du SCAC à Jakarta, nous avons ensemble créé le programme de post-maîtrise, à peu près comme le programme de master ici.
Et donc, que font les étudiants dans ce programme, par
voilà.
exemple? Vous pouvez nous dire?
Le programme
Un exemple.
Est au début est destiné pour les jeunes professeurs.
D'accord.
C'est-à-dire les jeunes professeurs, mais les jeunes qui ont déjà un travail, les professeurs étudiants à peu près, ou les jeunes. Mm-hmm. Voilà. Mais en réalité, par exemple, l'année dernière, nous avons reçu 7 professeurs. Voilà. Et 2 parmi eux sont des professeurs du lycée. D'accord. La différence, c'est que tous les professeurs de l'université, ils ont le droit d'avoir une bourse du gouvernement indonésien. Tandis que les collègues professeurs du lycée, ils n'ont pas ce droit. Oui, la raison, c'est parce qu'ils viennent de 2 directorats différents. Ceux qui viennent de l'école supérieure et l'autre, c'est de l'école secondaire. Voilà. Donc, l'objectif de ce programme de master, c'est vraiment pour se perfectionner. Mmh. Voilà, pour approfondir les stratégies d'apprentissage des professeurs, parce qu'ils sont déjà professeurs dans ce
oui.
cas.
Mmh.
Voilà. Et puis, si on voit depuis des ans, nous voyons qu'il y a des candidats, des professeurs qui viennent nous joindre dans le programme. Ce sont des professeurs qui viennent de loin. Des gens qui viennent, qui habitent hors de Java, de l'île Java, de Sumatra,
qui viennent de toute l'Indonésie,
de
tout l'archipel.
Voilà. Mm-hmm. Voilà, c'est ça.
C'est la réputation de cette université, peut-être, qui la rend
oui,
si
attractive. Oui, on espère bien. Parce que jusqu'à présent, c'est le seul programme de post-maîtrise de français en Indonésie.
J'imagine qu'il y a un accès à Internet et que vous utilisiez les nouvelles technologies dans l'enseignement du français.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous travaillons avec tout ça et puis avec des nouvelles techniques, des médias assez sophistiqués, etc. Voilà, y compris bien sûr l'Internet.
Et qu'est-ce qui distingue, par exemple, ces structures d'enseignement du français de votre fédération, de l'association des professeurs de français d'Indonésie, des structures telles que les centres culturels ou les alliances françaises. Quel est le plus que vous apportez ?
Nous connaissons bien peut-être plus ou moins le travail, les tâches des centres culturels et l'alliance française. Pour vous décrire la situation en Indonésie, nous avons heureusement 4 centres culturels dans l'île Java, y compris dans notre ville, et puis 8 alliances françaises. Mm-hmm. Donc c'est bien, à mon avis, ce nombre-là.
Ça fait toute une dynamique autour
c'est très dynamique. C'est-à-dire qu'à part la capitale, il y a Bandung, Yogyakarta, etc. Ce sont des villes très touristiques, ce sont des villes très universitaires à la fois. Où donc la position ou le rôle de l'association dans ce cas, l'association en effet, elle essaie de s'approcher de plus près des professeurs de l'enseignement de secondaire, de l'université, et puis pour mieux encadrer et pour mieux protéger plus ou moins la présence du français dans ces établissements. C'est un peu pour ça. C'est-à-dire que, comme je disais à quelques collègues, il y a quelques exemples intéressants, par exemple, chez les professeurs du lycée. Il y en a ceux qui m'ont téléphoné que le français n'existe plus le semestre prochain. Et
donc
ils m'ont demandé l'aide.
Voilà, ce sont des problèmes concrets que vous êtes amené à
résoudre. Et puis, moi, j'ai fait rendez-vous avec le directeur d'école de ce lycée-là. Et puis, je suis venu les voir. J'ai essayé de convaincre, etc. J'ai expliqué ce que c'est l'association, l'importance de la présence du français, des langues étrangères, etc., etc. Et finalement, au lieu de supprimer le français dans le semestre prochain,
ils
ont rajouté 2 fois de plus nombre de cours. C'est formidable. Ça, ce sont de bons exemples du rôle de l'association.
De votre action. Donc une action de soutien dans des problèmes parfois très concrets.
Simplement
de maintien de cours et aussi de d'encouragement et probablement aussi de mise en commun de cours pour tous les professeurs peut-être. Les cours sont mutualisés pour les professeurs ou il y a des échanges entre les professeurs de français de votre association sur leur propres expériences sur cours qu'ils font. Vous avez un bulletin peut-être de votre association.
Notre association, c'est l'Association des professeurs de français d'Indonésie ou l'APFI.
Elle a été créée quand d'ailleurs ? Excusez-moi, je n'ai même pas demandé.
Et puis l'association, elle est née en 1970, donc c'est assez vieux quand même. Mm-hmm. Et puis maintenant, nous avons déjà 9 antennes. Pour une raison démographique, etc., nous avons décidé d'avoir plusieurs antennes pour l'Indonésie. Et actuellement, nous avons 9 antennes. Et chaque antenne est présidée par un président ou une présidente de l'antenne. Chaque année, nous avons des programmes très réguliers. Par exemple, un séminaire au niveau national. Le 16 septembre cette année, à Jakarta, nous avons réalisé ce séminaire national.
Il y a un thème particulier ?
Le thème particulier, c'était l'enseignement de la civilisation française à travers des films.
À travers
des chansons, etc. Mm-hmm. C'est-à-dire que le comité de l'antenne, qui d'habitude décide les thématiques du séminaire, etc. Et puis lors du séminaire également, nous avons décidé que l'année prochaine, nous organiserons le même type de séminaire à Yogyakarta. Yogyakarta, c'est une ville touristique. Je ne sais pas si ça vous fait penser aux vacances, etc. En Indonésie, ça, c'est Yogyakarta. C'est-à-dire à part Bali, bien sûr.
Oui.
Voilà. Et puis, il y a des rencontres assez régulières entre nous, c'est-à-dire que organisateurs du niveau national et les antennes, les présidents. Voilà.
Votre association participe aussi, l'Association des professeurs de français d'Indonésie, participe aussi au grand congrès organisé par la FIPF. En Asie, il y en a eu un en 2006, en avril 2006, et j'imagine qu'il y a eu une délégation d'Indonésie pour faire part probablement des questions et des problèmes propres à l'archipel.
Oui, bien sûr, nous participons très régulièrement dans ces rencontres internationales sous forme des colloques
et de congrès.
Des congrès, etc. C'est vrai que vous avez cité le premier colloque régional Asie-Pacifique.
Ah, c'était le premier en 2006.
Oui, c'était le premier d'accord. En Asie-Pacifique, officiellement peut-être. D'accord. C'est-à-dire que sur le patronage de la Commission d'Asie-Pacifique et de la FIPF, bien sûr.
Oui.
C'est-à-dire que c'était un très grand succès.
Oui. D'accord. Ça a eu lieu à Taipei.
C'était à Taipei. Et je crois que vous connaissez Madame Pewatili.
Oui.
À qui on à mon avis, nous sommes obligés de féliciter. D'accord. Oui, c'est-à-dire que l'association participe à toutes ces rencontres importantes. L'association était présente, par exemple, à Taïwan et puis aux États-Unis, à Atlanta, dans le dernier congrès de la FIPF, et puis à Paris, à Lausanne, etc. Au moins, il y a un représentant de notre association. Voilà.
Et dans ces grands congrès, les thèmes qui reviennent le plus souvent, c'est effectivement comment appliquer les nouvelles technologies à l'enseignement du français, ou bien comment développer ou favoriser le travail associatif interne et développer justement les liens entre toutes ces associations. Ce sont les missions de des associations des professeurs de français. Mais est-ce que j'imagine que les étudiants et les élèves que vous avez participent à des concours de langue française qui sont lancés par la FIPF ou
D'accord.
Est-ce qu'il y a des échanges comme ça aussi avec des francophones d'autres pays en dehors de l'Asie?
C'est vrai, dans ce niveau-là, nos élèves, ils se mêlent pas beaucoup de, comme dit-on, ils participent pas beaucoup, pas encore peut-être dans ces concours-là, mais ils ont déjà commencé.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que presque toutes les semaines, je reçois, mettons, des annonces, soit de la FIPF, des radios, par exemple, Radio Canal Académie de France, Radio France Internationale et d'autres établissements qui nous demandent de participer à tel concours.
Mmh.
Et d'habitude, moi, je diffuse très directement ces annonces-là, soit aux professeurs, soit aux étudiants. Et comme nous sommes assez nombreux dans ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux ou trois personnes qui participent, mais je ne sais pas, est-ce qu'ils, finalement, ils gagnent ou ils ne gagnent pas. À mon avis, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a la participation totale pour des activités francophones dans le monde.
Concrètement, quels auteurs français sont étudiés, par exemple, dans votre université?
Dans notre université, pour les auteurs, bien sûr, ça dépend beaucoup des professeurs.
Des professeurs, parce que professeurs, c'est un choix.
Des professeurs.
Personnel.
Vous voyez, dans notre histoire, dans l'histoire de la présence du français de la zone Asie-Pacifique, y compris
oui.
l'Indonésie, nous connaissons bien que le français, par exemple, à mon avis, il est venu par la pénétration de la traduction des Descartes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, etc. Et puis, bien sûr, la fameuse 83 jours.
Le tour du monde.
Le tour du monde de Jules Verne.
De Jules Verne, le tour du monde en 83
jours. Qui ont tout à fait séduit les Asiatiques et notamment les jeunes Indonésiens.
Alors, voilà. Ce sont les grands auteurs classiques. Est-ce que des auteurs contemporains sont étudiés?
Les auteurs contemporains, c'est Simone de Beauvoir, à mm-hmm. mon avis, c'est, et puis Sartre,
oui.
quand même, et puis quelques auteurs, quelques écrivains qui ont reçu le prix de Goncourt, etc. Mm-hmm. C'est ça. Ça dépend beaucoup des professeurs. Oui.
Et est-ce que les Indonésiens, on ne peut pas parler en leur nom, au nom de ces étudiants indonésiens, est-ce qu'ils ont une préférence pour la poésie française, le théâtre ou la littérature?
Mm-hmm. Pour est-ce la littérature, oui, mais c'est plutôt... à mon avis, d'après mes observations surtout, c'est le théâtre.
Le théâtre.
Ils adorent beaucoup le théâtre. Français.
Et est-ce qu'on a l'occasion de pouvoir assister à une pièce de théâtre en français ou en indonésien?
En français ou en indonésien. C'est-à-dire qu'il y a il y a la traduction avec ça.
Oui.
Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans notre ville, nous avons un centre culturel français, c'est-à-dire qui organise beaucoup de manifestations culturelles, y compris
Alors,
les pièces théâtre.
Quelle est la dernière pièce que vous avez
Molière.
Molière,
voilà.
Des Molière, pièces de Molière.
Mmh. Molière et puis Sartre.
Mmh.
Les mouches, quoi.
Oui.
Et puis, voilà, ça c'est...
Et est-ce que la chanson française parvient sur les ondes indonésiennes?
Oui, mais c'est vrai que les chansons récentes, pas tout à fait.
Mm.
Les jeunes, ils les connaissent pas beaucoup, mais les vieilles chansons, oui.
Ah oui, lesquelles?
C'est les comme de Brel, Jacques Brel. De,
ces chansons-là sont encore
Nana
connues.
Mouskouri, Nana Mouskouri. Oui. Et puis, je crois que vous connaissez très bien, il y a une chanteuse indonésienne, chanteuse,
oui
c'est Anggun Cesasmi,
oui.
qui est javanaise, indonésienne.
Oui, oui.
Qui, c'est-à-dire que Anggun, elle devient actuellement une représentation indonésienne en France.
Oui,
où,
oui, c'est vrai.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand les jeunes indonésiens, quand on parle de la France, ils pensent assez aussitôt à Anggun Cesasmi, voilà. Ah oui, c'est Anggun, c'est en France, etc. Ouais, et les francophones, ça c'est très bien pour nous.
Ça a peut-être encore plus donné aux Indonésiens le goût du français.
Tout à fait.
Pour clore notre émission, quel mot préférez-vous de la langue française?
De la langue française, moi j'aime tous les mots, toutes les phrases françaises que je comprends, mais...
Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette langue?
Pour cette langue, c'est la prononciation, la structure, et puis le rythme, son charme, bien sûr, c'est ça. Moi, je disais souvent, peut-être si vous m'avez demandé quel mot, quelle phrase que j'aime et que j'utilise toujours, ça, que le français, c'est facile. Ça, c'est toujours le slogan. En tant que professeur, moi, je disais toujours ça. Dès notre premier cours à nos élèves. Et s'il s'agit d'un premier cours de français, moi je disais toujours avec notre équipe que le français c'est facile. C'est-à-dire que pour ne plus avoir une image négative, que le français c'est difficile. Voilà.
Oui.
Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que, voilà, c'est ça.
Dadang Sunanda, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous.
Je vous en prie.
Et de nous avoir accordé cet entretien. Et au plaisir de vous revoir dans les studios de Canal Académie.
C'est un honneur, merci de vous en prier.